En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Voilà. Alors, j'ai choisi ce sujet de la peste et l'expédition d'Égypte, donc 1798-1801, parce que c'est un cas qui est intéressant à plusieurs égards. D'abord, on a projeté un corps expéditionnaire de 36 000 hommes, avec les équipages et les marins de la flotte de commerce, c'est à peu près 50 000 hommes. 50 000 hommes en une seule fois, en quelques semaines, c'était l'équivalent à l'époque de la 9e ville française, c'est-à-dire Strasbourg. C'est comme si on avait projeté Strasbourg d'un coup. C'est une chose qu'on refera un petit peu moins à Alger. Après, c'est fini, on ne sait plus faire. Mais maintenant, on sera infoutu de projeter 30 000 hommes. Hein, donc, il faut regarder les choses comme ça. Alors, on les projette en Égypte, qui est, au XVIIIe siècle, un foyer reconnu en Europe comme un foyer endémique de la peste. Donc, le souci principal de Bonaparte et des officiers de santé en chef, alors c'est Desgenettes, qui est le médecin en chef, et Larrey, qui est le chirurgien en chef, et donc de préserver la santé et le caractère opérationnel du corps expéditionnaire, donc qui est projeté à plus de 3000 km de la métropole, et ça va devenir d'autant plus une nécessité qu'à la bataille navale et au désastre d'Aboukir, donc le 1er août 1798, eh bien, il n'y aura plus possibilité. La France perd la maîtrise de la mer, perd la maîtrise de la Méditerranée, et donc l'armée d'Orient est prisonnière de sa conquête. Donc il n'y a plus moyen d'envoyer des renforts, donc il va falloir sur place. La campagne d'Égypte, c'est de toutes les campagnes napoléoniennes, celle qui a suscité la plus riche littérature médicale. Alors déjà, il y a 363 auteurs témoins, donc de l'époque, tant militaires, médecins, chirurgiens, scientifiques, ingénieurs, voyageurs, français, anglais et arabes. Donc on a quand quelqu'un pose la question, est-ce que vous avez des textes ? Oui, nous avons des textes, là, il n'y a pas de problème. Alors, c'est une particularité, donc, et parmi ces... Alors, il y a plusieurs dizaines qui traitent des affaires médicales, mais il y a 29 officiers de santé qui ont écrit sur la question. Donc on a de quoi faire. Cette particularité s'explique donc par la présence d'un important service de santé. Il y a eu 168 officiers de santé, dont 3 officiers donc en chef, 142 membres de personnel administratif des hôpitaux et également 9 employés des lazarets. Et ça aussi, c'est important, parce qu'ils savent qu'en Égypte, il peut y avoir la peste. S'ajoutent des hommes, il y en a 9 chirurgiens, pharmaciens ou médecins, qui appartiennent à la commission des sciences et des arts. Et puis, il va y avoir la constitution au Caire de l'Institut d'Égypte. Donc, en plus, en Égypte, il y a évidemment une très riche pathologie. Celle qui va focaliser, tout le monde en parle, tout le monde en parle, c'est la peste. La peste qui est la dominante vraiment épidémiologique de l'armée d'Orient. Ça a frappé les esprits, ça a donné une vision dramatique à cette affaire. Donc, c'est très évident. Et puis, il y a les maladies propres, évidemment, aux armées en campagne. Et ou en terre chaude, hein, donc là, on aura les fièvres endémiques, les ophtalmies qui vont être redoutables, les dysenteries, la fièvre jaune, le tétanos, la variole, le paludisme, les éléphantiasis, le scorbut, les maladies vénériennes, etc. Quoi. Donc, tout ce qui peut se passer chez un autre. Il est très révélateur, c'est pour ça aussi que c'est intéressant, il est très révélateur que le livre de Desgenettes, qui est l'histoire médicale de l'armée d'Orient, a été publié une première fois en 1802 et il est réédité une deuxième fois en 1830. Et dans l'avertissement, Desgenettes explique, il dit, c'est l'expédition d'Afrique dont les préparatifs se font en ce moment, qui oblige. Donc il y a un intérêt du milieu médical, du milieu militaire, etc., pour le texte de Desgenettes et pour d'autres, de cette campagne d'Égypte, parce que justement, en 1830, on va conquérir, enfin c'est le début de la conquête de l'Algérie. Et il y aura même une troisième édition en 1835 qui montre que, bon, ça veut dire que tout ça est à intérêt. Alors, large place à la peste, hein, qui va être donc la dominante épidémiologique, mais il y a aussi, derrière tout ça, énormément de choses. Il y a les problèmes d'ordre éthique qu'a posé la peste. Est-ce qu'il faut dire la vérité aux soldats ? On va avoir 2 points de vue, Desgenettes contre Larrey. On va avoir le commandement peut donner des ordres d'euthanasie ? Ça va poser un vrai problème. Hein, c'est un problème moral. Hein. Est-ce qu'il faut euthanasier les pestiférés? Ce qui va se passer notamment lors de la retraite de Syrie. Il y a quelqu'un qui a écrit « Numériquement, événement de peu d'ampleur, mais alors moralement, d'une importance qui n'a fait que s'accroître et qui va plomber, en quelque sorte, là, évidemment, la légende napoléonienne. Hein, c'est-à-dire là, on a un point noir. » Du point de vue militaire, c'est évidemment aussi un cas exemplaire hein, qui met en relief la part prépondérante que peut prendre une guerre, dans une guerre, un fait pathologique, l'apparition parmi les troupes d'une grande épidémie, avec pour corollaire la fonte des effectifs et la dépression psychique des soldats. Il ne faut pas oublier, c'est un aspect qui commence à être traité, c'est le point de vue des populations locales. On va avoir un double mouvement, parce qu'effectivement, l'armée française va trouver l'épidémie sur place, mais elle va être touchée, mais elle va répandre l'épidémie par ces mouvements dans toute l'Égypte, basse et haute Égypte, et également, évidemment, vers la Syrie. Donc on a ce double phénomène, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi ce contact entre deux civilisations, deux façons de voir, deux traditions, deux etc., entre les traditions arabes et puis les traditions européennes. Ils ont tous le même, on verra, très beau texte de Desgenettes, ils ont tous la même origine, mais il y a eu divergence hein, à une certaine époque. Il y a une évolution du côté européen, il y a une espèce de cristallisation du côté arabe qui ne concerne pas que le médical, malheureusement. Et puis, il y a une autre aussi conception de la guerre, où dans le droit de la guerre, entre guillemets, pas toujours le cas, mais on respecte quand même les blessés, les malades, et les prisonniers de guerre, on ne les égorge pas. Enfin, c'est pas, on a fait, on le fait, on l'a fait aussi pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième, donc on ne peut pas dire qu'on est blanc-bleu. Mais se posera la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement, ça renforce le côté de l'euthanasie, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des pestiférés et qu'on ne peut pas les transporter, et que si on les laisse sur place, eh bien, ils sont torturés. Donc, c'est quelque chose qui, quand même, pèse lourdement. Donc, avant de commencer ça, je vous ai fait un petit baratin très, très rapide par l'intermédiaire de cartes, parce que la peste, c'est quand même la terreur. Là, il y a une vraie phobie, il y a une vraie peur. Le mot fait peur. Et d'ailleurs, c'est là où on verra le problème psychologique dans les armées. Donc, dans les représentations, hein, la peste, ça constitue le fléau par excellence, un pestis, le fléau, la peste. C'est largement utilisé jusqu'au XVIIe siècle, c'est un terme générique. D'ailleurs, quand on dit peste, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein, ça désigne des maladies épidémiques. Ça peut être la peste, effectivement, le typhus, la variole, la dysenterie, mais qui a un fort taux de mortalité. Donc voilà. Alors, quand on remonte dans l'histoire, on parle de la peste d'Athènes, donc de l'époque qui a été décrite par Thucydide. On pense que finalement, c'était peut-être que le typhus ou une fièvre typhoïde, enfin, on ne sait pas trop. La peste antonine, vraisemblablement, donc, qui était au IIe siècle de notre ère, là, c'est plutôt la variole. La vraie pandémie connue, répertoriée, c'est la peste donc, justinienne, donc, qui apparaît au VIe siècle, 541, qui va être suivie par 15 épidémies. Alors, vous avez là sur la carte exactement le mouvement qui sera de toutes les épidémies, en quelque sorte. Ils viennent, on passe ce qu'on appelle la caravane maritime, hein, vous voyez bien la route maritime qui est empruntée, et qui va se répandre, qui part d'Orient et qui, en quelque sorte, se répand vers l'Europe occidentale. Alors, par contre, là, il y a eu des fouilles qui ont été menées en 2012 dans une nécropole de Bavière, et on a confirmé le caractère pathogène par le bacille de Yersin, hein, et donc là, on est sûr que c'était une vraie peste. Donc, voilà. Et ça se développe, donc vous voyez, sur les pourtours de la Méditerranée, ça atteint l'Égypte, le nord de l'Afrique, la Palestine, la Syrie, bon, Constantinople, et puis etc. Donc l'Italie, la Gaule, enfin bon, toute la Germanie. Et là, on a le prototype de la pandémie. Alors, regardez bien les dates. Il est évident que ça, c'est une peste qui apparaît à l'époque du prophète. Donc, il va être connu en islam et qui est intégré dans les hadiths, dans les traditions musulmanes. Donc, c'est important dans les traditions, etc. Alors, là, la deuxième, on l'a déjà évoquée. Alors, bon, moi, elle m'amuse beaucoup, donc je vais vous montrer trois cartes parce que je n'ai pas réussi à choisir laquelle était la plus marrante, enfin, la plus intéressante. La deuxième, donc, se manifeste entre 1346 et 1355. Donc, on disait la peste atra, hein, horrible, terrible. Tardivement, on parlera de peste noire. Elle est dénommée par les contemporains Pestis inguinaria, donc peste inguinaire, pour raison des bubons qui sont dans les régions des aisselles, etc. Peste, la maladie des bosses, la maladie des haines, enfin, vous voyez. Alors l'origine, bon, on l'a évoqué avec Kaffa, vraisemblablement vient de la province de Hubei. Hubei, je pense que toi tu dois dire, ou je ne sais pas ce que tu dis, Paola, et donc c'est dans le cadre des guerres entre la Chine et la Horde d'Or, qui est complètement là, elle n'est pas sur la carte, hein, t'inquiète pas, elle n'écoute pas, donc elle est, je trouve, et alors, en suivant les routes de la soie, elle atteint effectivement la Crimée, Kaffa, alors actuellement c'est en Ukraine évidemment, et ça s'appelle Féodacia. Et elle arrive en 1347, c'est une ville qui est fortifiée, qui a été conquise par les Génois. Il y a effectivement Génois sur les Byzantins, donc en 1266. Et ce comptoir génois va être assiégé par une émanation de la Horde d'Or. Et pendant le siège, alors moi l'histoire que j'ai, parce qu'en fin de compte, enfin, pour l'instant, personne n'a encore trouvé le moyen de dire que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc pour l'instant, je continue... Sur cette peut-être qu'on aura un jour une autre explication. Il y a donc ce fameux siège, le Khan qui doit lever parce que c'est la troupe les Tatars qui sont atteints par la peste. Donc il lève le siège. Comme c'est un mauvais perdant, il balance donc les fameux cadavres des pestiférés en sachant que s'ils sont morts, les fameux pestiférés, les puces ont foutu le camp. Donc je ne sais pas. Oui, non, je veux dire, faut quand on regarde de façon un peu, voilà, pas trop longtemps. Donc peut-être ils étaient tout frais, ils les ont balancés tout de suite et les puces sont restées accrochées. Donc je ne sais pas, mais on peut se poser la question de ça parce que. Ben voilà, donc quand le corps est mort, donc oui, alors donc on peut se poser la question que s'ils balancent des pestiférés qui sont morts depuis 3 jours, il n'y a plus de puces, quoi. Ben bon, on reste avec cette histoire de puces, et donc ils sont donc par Canavette, donc c'est peut-être la première, donc vraiment manifestation sûre de guerre bactériologique. Le Khan et les Génois vont signer une trêve, les Génois s'enfuient à bord de 12 galères. Ils vont, Gênes n'est pas totalement idiot, refuser l'entrée des galères de sa propre nationalité. Et donc, ils vont se rendre à Marseille. Et vous avez le très joli tableau. Alors, moi, j'en ai d'autres. Il y en a eu celle-là, elle est pas mal aussi, comme. Elle est jolie, on voit bien. Et alors, on voit toujours cette diffusion, hein, la caravane maritime, c'est toujours par là que ça passe, hein, donc, et on voit par truc. Et là, on a aussi celle-là. Alors, il y a peu de zones qui ont été... donc, vous voyez, les zones en blanc sont les zones où il n'y a pas eu de truc. Alors, c'est une peste de double façon, puisque c'est une peste donc bubonique, mais c'est aussi une peste pulmonaire, donc interhumaine. C'est d'où là l'énorme dégâts qu'elle a pu faire. La mortalité va être exceptionnelle. On a dit entre un tiers et la moitié de la population selon les régions. La peste va suivre les voies commerciales, terrestres, maritimes, fluviales, va se répandre en 4 années dans toute l'Europe, dépeuplée. Donc, vous voyez bien sur la carte les régions qui sont dépeuplées. Alors, il y a aussi, là aussi, on a trouvé, alors c'est ça qui est intéressant, on a trouvé dans un cimetière médiéval de Saint-Côme et d'Amiens, donc près de Montpellier, là, ils ont fait des tests, ADN mitochondriaux. Et là, il montre que finalement, il y a une 20% par rapport à la population contemporaine, il y aurait 20% de perte au niveau de la. Il y aurait 20% de ce type d'ADN qui aurait disparu, donc de perte de qualité au niveau de. Enfin, les femmes sont. Enfin, c'est comme ça, vous savez, l'ADN mitochondrial passe par. Ce sont les femmes. Et donc là, on a la preuve que ça entraîne vraiment, non seulement ça tue les gens, mais en plus, ça fait disparaître des familles entières, et il n'y a plus de descendants, quoi. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Voilà, la biodiversité. Non, mais je veux dire, c'est quand même... Là, on a la preuve, c'est pas que la peste, etc. Ça joue aussi sur la diversité génétique, quoi, de ces régions. Voilà. Donc, là, ça va donc provoquer, évidemment, un effondrement démographique. Emmanuel Leroy Ladurie a parlé de modèle Hiroshima. pour montrer que ça a été aussi rapide, ça a désorganisé totalement la vie publique, économique, sociale, culturelle, etc. La disette s'ajoute à la peste, la guerre multiplie les effets de l'épidémie, c'est ce qu'on disait, les cavaliers de l'apocalypse, hein, donc l'association de la peste, de la famine, de la guerre et de la mort, et voilà. Donc les contemporains ont vraiment cette impression-là. Donc ils vont en avoir une méfiance vraiment très importante à l'égard de l'Orient, source de toutes les pestilences, mais la peste va rester endémique pendant plusieurs siècles. Hein, toutes les villes et provinces vont être touchées à de multiples reprises. Des flambées de peste vont scander la vie de la population du royaume de France tous les 11-12 ans, entre 1347 et 1536, puis tous les 15-20 ans, entre 1536 et 1670, évidemment, pas toujours national, mais local. Et en trois siècles, il y a 26 poussées donc principales qui ont été identifiées, avec 11 poussées secondaires. C'est-à-dire que pendant quatre siècles, la France connaît une croissance démographique nulle. Et pour que l'Europe retrouve finalement le niveau démographique d'avant la peste, eh bien, il faut attendre le XVIIe siècle. Donc ça a quand même été quelque chose d'absolument atroce, hein, etc. La peste, alors la dernière peste en France, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, Olivier, c'est la peste de Marseille en 1720. C'est la dernière épidémie donc enregistrée en France. La précédente s'était produite 71 ans auparavant. L'histoire est bien connue, hein, c'est le grand Saint-Antoine. C'est un navire de commerce en provenance du Levant, de la région de Syrie, qui accoste donc à Marseille le 25 mai 1720 et qui va être à l'origine, la cargaison est faite d'étoffes, de balles de coton et est contaminée. Il y a eu de graves négligences, hein, parce que même si après on a dit que les échevins ont été célébrés comme des héros parce qu'ils ont essayé de battre contre l'épidémie, ils ont été jusqu'au cou pour faire rentrer ces ballots. La peste donc va s'étendre dans tous les quartiers déshérités, va toucher finalement, on a commencé par dire que c'est une maladie populaire, mais elle va s'étendre à toute la cité. Elle va entraîner au sein de la population de Marseille entre 30 000 à 40 000 morts. Elle va sortir et balayer aussi la Provence, aller jusqu'au Gévaudan. Et donc, on a 90 à 120 000 victimes. C'est-à-dire qu'on a quelques ballots, quand on met sur une balance, on a quelques ballots de textiles. Et de l'autre côté, on a au moins 120 000, peut-être 150 000 morts. Quoi. Hein, donc, voilà, c'est quand même intéressant. Alors,
les fouilles ont permis de vérifier que c'était bien le
bassin. Absolument, absolument. Il n'y a pas de problème là-dessus aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de tout ça, de cette peste, au fur et à mesure, a été élaboré on n'a pas de connaissances médicales, hein, c'est clair. Vous savez bien, le bassin de Yersin, c'est 1894. La découverte que c'est la puce, c'est 1898. Donc, c'est clair, on n'en sait rien. Donc, on est complètement dans le pragmatique, dans l'empirisme, dans tout ce que vous voulez. Mais le système sanitaire européen s'avère performant au XVIIIe siècle. Il faut regarder qu'entre 1716 et 1796, les lazarets européens ont reçu 37 navires avec la peste à bord en provenance du Levant et qu'il n'y a eu qu'un seul accident, c'est à Marseille. Donc ça veut dire que ça a fonctionné et que les lazarets ont rempli leur fonction, c'est-à-dire d'empêcher la propagation de la peste. Et donc en 1720, c'est malveillance et négligence. Quoi. Alors il faut voir le système qui est mis en place, je vous le dis parce que c'est important, parce que Bonaparte va se jouer de tout ça, parce que lui il est au-dessus des patentes de santé et tout. Mais quand tout bâtiment qui provient de l'Ulevant, des échelles du Levant, tout ce qui est même port grec, etc., Syrie, etc., doit fournir une patente de santé qui est délivrée par le consul en place et qui présente trois formes. Elle est dite nette, lorsque la maladie est bonne, donc il n'y a pas de maladie, la santé est bonne sur l'échelle, donc il n'y a pas de peste dans le port depuis au moins 2 mois. Elle est dite soupçonnée, quand la maladie sévit aux environs ou qu'elle a disparu depuis peu, et elle est dite brute, quand la maladie sévit dans le port même. Donc même lorsque les patentes sont nettes, les bâtiments venant du Levant sont considérés comme suspects et doivent remplir une quarantaine d'observations pour voir s'il y a effectivement ou non la peste à bord, parmi les équipages et par la cargaison. La quarantaine, on l'a vu, ça se pratique dans les lazarets, donc c'est des endroits isolés, fermés, sous la surveillance de garde. Et en France, les passagers sont enfermés 18 jours en cas de patente nette. petite quarantaine. 20 à 25 jours si la patente est soupçonnée ou brute. Mais le navire qui est atteint, il reste 20 à 30 jours en quarantaine et la marchandise 30 à 40 jours. Donc tout ça, ce sont des mesures qui ont pris parce que finalement le risque de la peste est rare. Hein, à Marseille, donc Marseille a quand même reçu 16 153 navires pendant tout le XVIIIe siècle en provenance du Levant. Selon les statistiques, alors on n'a pas des sources très précises, 140 d'entre eux ont été contaminés en Méditerranée, 19 donc sont venus jusqu'à Marseille. On a vu le drame qui a été l'un d'eux. Donc, quand en 1798, ils arrivent en... Donc on verra, ils arrivent en Égypte. C'est une maladie, je dirais, anachronique pour l'Occident, hein, pour la France. Les médecins, ils n'ont jamais vu ça. Ça fait 78 ans qu'il n'y a pas la peste en France. Donc c'est que des connaissances livresques. Hein. Donc ils n'ont jamais eu affaire à la peste. Alors comment est prise en compte cette histoire de peste ? D'abord, l'Égypte est considérée comme un foyer endémique de la peste. Or, ce n'est pas complètement vrai. Notamment Daniel Panza qui a beaucoup travaillé sur la peste, notamment il a fait un très beau livre sur la peste de l'Empire ottoman. Lui il dit, c'est très clair, la peste ne vient pas d'Alexandrie, elle est souvent importée en Égypte, mais ça on le sait pas à l'époque, hein. Et ça commence souvent dans les pires méditerranéens, donc, et alors évidemment ça touche tout de suite Alexandrie puisque Alexandrie est un grand port de commerce, donc automatiquement, et à partir du moment où c'est Alexandrie, ça touche toute la basse Égypte, parfois la haute Égypte, mais pas toujours. Donc c'est en quelque sorte une peste qui arrive de l'extérieur, qui est importée et qui se maintient pas dans le pays. On verra qu'au XIXe siècle, c'est différent. Enfin, je n'en parlerai pas. Alors, quand Talleyrand... Alors, je ne vous raconte pas l'histoire de l'expédition d'Égypte, hein, qui est très connue. Je vous rappelle que c'est quand même une expédition totalement ficelée, prévue. Même, il fallait qu'il débarque avant le mois de juillet parce que, pour éviter ce qui était arrivé à Saint-Louis, quand il avait débarqué, donc pour ne pas tomber dans la crue du Nil. Enfin, c'est vraiment quelque chose préparé de longue main, et notamment préparé à l'époque de Choiseul, dans les années 1770, et complètement ficelé, avec des rapports de militaires sur place. La seule chose qui manque, c'est le rapport concernant la partie navale, et la partie notamment le port d'Alexandrie, puisque les chrétiens n'ont pas le droit de rentrer dans le port d'Alexandrie. Donc on ne connaît pas exactement si on peut rentrer ou non des bâtiments de 74 canons, de 80 et encore moins de 120. D'où ça sera le problème de la bataille d'Aboukir, mais c'est une autre histoire. Est-ce que les officiers de santé sont informés de la destination de l'expédition ? Alors, on en a trois généraux. À mon avis, il y en a un seul d'officier santé général qui est au courant. Je pense que c'est Desgenettes. Le secret a été vraiment... On a dit que c'était un secret de Polichinelle. Je vous rappelle que cette expédition a été une opération de deception, hein, absolument remarquable, puisqu'ils ont absolument enfumé les Anglais, hein, et donc ça a très très bien réussi. On n'a pas distribué de gourdes aux soldats pour éviter de dire qu'on allait dans le désert. Hein. Donc on aurait pu les planquer, je ne sais pas quoi, enfin on n'a pas distribué, ça a eu un problème. Alors je pense que Desgenettes était au courant, en tout cas l'arrêt ne l'est pas. Et l'arrêt est dit, ayant soupçonné pendant la route le but de notre expédition, j'avais étudié à bord ce qui peut être en rapport avec le système médical de l'Égypte. Donc vous voyez que pour préparer des instructions. Donc vraiment, on ne sait pas trop. Est-ce que Bonaparte est au courant ? Oui, puisque Talleyrand, évidemment, quand il l'a présenté devant le directoire, avait dit, attention, il y a la peste, il avait prévenu qu'il y avait la peste. Alors, Bonaparte, sur cette affaire d'Égypte, s'est beaucoup intéressé aux services de santé. Je pense qu'il s'est même, c'est vraiment dans l'opération dans laquelle il s'est le plus investi, et il s'est d'ailleurs montré, je pense, un bon hygiéniste. Hein, donner des... Alors, dans les préparatifs, le service de santé avait planifié donc, un corps expéditionnaire de 36 000 hommes. Il y aurait un dixième qui serait blessé ou malade. Donc, on avait prévu un chirurgien pour 25 blessés, un médecin et un pharmacien pour 50 malades. Ça va de soi que ça n'a jamais été. Évidemment, mis en place, c'était des ambitions trop grandes. On a prévu l'installation de 9 lazarets. Donc ils savent qu'il y a trouvé l'Égypte. Et comme il y a des ports, il faut mettre des lazarets dans les ports, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc 9 lazarets sont prévus. Et l'homme qui est là, qui va s'en occuper, l'ordonnateur, c'est un certain Blanc, qui est l'ancien conservateur du lazaret de Marseille. Le lazaret de Marseille qui est considéré comme étant le plus vaste, le plus commode et le mieux administré d'Europe. Alors quand Bonaparte, qui évidemment... Très chafouin comme ça va se soir. Donc cette expédition va partir le 19 mai, hein, c'est une affaire décidée début mars et puis départ le 19 mai, donc vous voyez peu de temps que ça a été, hein, avec, enfin, c'est une opération exceptionnelle, et de surcroît, bon, j'ai pas mis la carte, mais où ils ont joué, ils ont donné le pion de Nelson, ils ont joué à chat et à souris, et ils ont gagné, mais bon, après, évidemment, le chat est arrivé plus tard, mais bon, les souris étaient passées quand même. Alors, le 28 mai, donc lui, départ de Toulon le 19, dès le 28 mai, il envoie donc une dépêche au directoire en demandant un passe-droit. Il dit, surtout, ne prenez pas, ne mettez pas en quarantaine, mais courriez. Parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il y ait perdre le contact avec le pouvoir central. Donc déjà, il faut des passe-droits, il faut pas... Et lui, d'ailleurs, quand il reviendra en France, il ne pratiquera pas la quarantaine, mais on est rassuré, il s'était lavé quand même les mains et le visage au vinaigre. Manifestement, ça a bien marché. Alors, le débarquement a lieu donc le 1er juillet. Dès le 3 juillet, il écrit donc à Naja, qui est un donateur de Toulon, « Notre premier soin a été d'établir ici un lazaret, auquel nous avons donné la même organisation qu'à celui de Marseille. Ainsi, dès ce moment, il n'y a plus rien à craindre de la peste. » Donc, c'est un homme optimiste aussi. Hein, donc. Et il ne dit pas que la peste sévit en Égypte. Or, il y a deux courriers, il y a lui qui arrive évidemment de France, mais il y a un courrier qui a dû se croiser, du consul de France, qui est du 4 mai. Et le 4 mai, eh bien, il dit le contraire, le consul. Il dit « La peste, après avoir couvé plusieurs mois à bord de divers bâtiments venus de Constantinople et arrivé au port vieux dans le courant de l'hiver, vient de se manifester dans notre rade. Ce fléau s'est répandu à terre, s'est niché dans le quartier qu'habitent les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire dans le vieux port. » Donc, qui sont au 1er juillet, donc on continue. Donc ils vont mettre en place tout de suite, parce qu'il va être la base de l'édifice sanitaire hein, de cette campagne, les hôpitaux, des lazarets, au fur et à mesure qu'ils vont progresser vers... quand ils débarquent, vous voyez, et quand ils vont... donc il y a deux façons d'aller vers le Caire, d'une part... Alors je ne sais plus la souris, je ne sais pas comment on fait la souris, c'est pas ça... Voilà, la souris. Donc, ils vont d'abord passer par le désert, toute une partie, là. Et puis, là, vous avez ceux qui passent par le Nil. Hein, ils vont se rejoindre, bon, etc. Au fur et à mesure de la progression, ils vont mettre des hôpitaux, organiser des hôpitaux partout, lazaret, donc au Caire, à Rosette en haut, à Aboukir, à Damiet. Ils vont mailler en quelque sorte tous les territoires qui vont être conquis d'hôpitaux, de systèmes sanitaires, etc. Normalement, le lazaret, c'est pour préserver, c'est-à-dire normalement, sont dans le lazaret ceux qui sont en quarantaine, c'est-à-dire ils viennent d'une région contaminée et on veut voir qui empêcher qu'ils contaminent. C'est une espèce de sas, hein, en quelque sorte, à l'entrée des villes saines, mais ça empêche aussi la sortie, évidemment, des villes contaminées. Mais là, après, on va mettre dans ces lazarets les pestiférés eux-mêmes, ce qui fait que les médecins vont être enfermés avec les pestiférés. Donc, résultat des courses, tout le monde va mourir dans ces lazarets, hein, puisque c'était inévitable. Alors, les conditions climatiques, hygiéniques auxquelles l'armée doit affronter, comme les officiers de santé, personne n'en est préparé. L'ophtalmie va faire des ravages. Là vous avez la traversée du désert va être une horreur. Ils vont connaître, ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils vont voir ce qu'est les mirages. Hein, on croit que l'eau est là et puis finalement elle ne l'est pas. Vous allez avoir des gens qui vont se suicider. De surcroît, l'armée est attaquée, harcelée par les Arabes. Hein, et donc, vous avez là des pertes. Des gens vont se suicider. Il y a des gens qui vont avoir des ophtalmies, mais sévères, hein, avec carrément des gens aveugles. Vous avez, alors évidemment, quand ils vont arriver sur le Nil, ils vont se précipiter sur les melons, les pastèques et tout. Vous imaginez ce qui a pu se passer au niveau intestinal. Alors, le déjeunette, quand il arrive, et ça, c'est une lettre formidable qu'il écrit, une lettre circulaire aux médecins de l'armée d'Orient, donc du 12 août, donc entre-temps, il y a eu la bataille des pyramides, etc., et 40 siècles qui ont contemplé, etc. Il fait un plan pour ses subordonnés pour faciliter l'étude physique et médicale des différentes contrées de l'Égypte. Lui, il dit « Nos fonctions aux armées ne se bornent point à traiter les malades. Nous devons constamment veiller tout ce qui peut assurer la santé des militaires. » Et il demande donc aux médecins de faire une reconnaissance topographique des maladies régnant en Égypte. pour appliquer convenablement les principes de l'hygiène et pour trouver des médicaments efficaces dans un pays nouveau pour nous, il est indispensable d'en rédiger soigneusement la topographie. Et là, on a des textes tout à fait intéressants. Et surtout, il reconnaît cette chose. Il ne faut pas oublier que cette expédition d'Égypte, c'est avec ses savants, c'est une expédition vraiment de l'âge des Lumières. Ils viennent pour trouver le berceau de la civilisation, parce qu'on croit à l'époque que l'Égypte est le berceau de la civilisation occidentale. Donc c'est ça qu'ils viennent découvrir. Et là, il dit, l'Égypte passe pour avoir été le berceau de la médecine, comme celui du reste des connaissances humaines. Mais il faut l'avouer, l'histoire de l'origine de notre art est assez incertaine et toujours obscure. Et il cite en référence tous les grands médecins arabes, Razès, je vous donne les termes européanisés, je ne vais pas vous donner, sinon c'est Abou Bark, Mohamed Imzayaya Arzari, bon, on va passer, mais vous avez aussi évidemment Avanzoar, hyper connu, mais aussi grand chirurgien, Avicenne, Averroès, et il dit bien, nous leur avons l'obligation d'avoir conservé la médecine des Grecs. Et c'est en cela que consiste leur vraie gloire, quoiqu'ils aient aussi celle d'avoir perfectionné la chirurgie et créé en quelque sorte la pharmacie par l'application de la chimie qu'ils cultivèrent avec succès. Il doit exister, et j'ai déjà entrevu en Égypte des traces de cette ancienne science. Donc il y a un coup de chapeau quand même, et c'est là où on voit, c'est un homme des Lumières, hein, c'est un des disciples de Vic d'Azyr, vraiment et une vraie, je dirais, curiosité à l'égard de ce qui se passe en Égypte. Alors, il dit, évidemment, il cherche des renseignements. Il y a une petite phrase qui dit que les Orientaux, malgré les préjugés, ont toujours témoigné aux médecins de l'Europe une grande confiance. Vous voyez, il y a un petit peu condescendant, mais enfin, bon, c'est quand même très sympathique. Et il va leur conseiller à ses troupes là, de s'initier à la vie médicale de l'Orient avec des ouvrages. Alors, quand même, l'ouvrage de Prosper Alpini, qui date quand même du 16e, 17e siècle, l'Historia Aegypti Naturalis et le De Medicina Aegypterium, bon, mais aussi le grand voyage en Égypte et en Syrie de Volney, enfin tous les grands voyageurs, il va les citer. Alors, dès le 15 juillet, eh bien, cas de peste dans la population, j'ai dit, la peste, elle était avant qu'ils arrivent, hein. Donc, cas de peste repéré dans la population civile. Donc, ils mettent tout de suite en place une administration sanitaire, un bureau de santé, pour préserver donc l'armée d'éventuellement, donc qui est dedans, des Genèdes, Blanc, Larrey. C'est une organisation qui est en place sur les idées du XVIIIe siècle en Europe, c'est-à-dire la notion de contagion, la surveillance des habitants, l'isolement des malades, des quarantaines. Donc ils vont afficher dans les souks en arabe et en arabe. Alors ça serait une autre histoire parce que ceux qui sont arrivés là, ils n'avaient pas l'arabe dialectal local et donc leur arabe. Et ça faisait hurler de rire, c'était bourré de fautes, ça faisait hurler de rire. Donc si on lit les textes de Jabarti, qui est quand même l'un des lettrés, il se marre du contenu qui n'est pas tout à fait correct dans un arabe bizarre et tout. Enfin bon, c'est quand même traduit.
C'était l'arabe du Collège de
France. Pourtant, ils avaient été en Turquie quand même. Enfin, je sais pas. Oui, bah parce que je sais, je suis chiante. Ils vont dans les affiches, c'est interdiction d'enterrer les morts dans les cimetières proches des habitations. Il faut creuser profondément les tombes. Il faut étendre les vêtements, les effets, les tapis sur les terrasses pendant plusieurs jours pour les aérer. Il faut procéder à des fumigations dans le but de détruire les miasmes, par crainte de la peste, de la contamination. Donc tout ça, ce sont des textes qu'on trouve chez Jabarti, hein, c'est-à-dire que lui, il a repris en note tous ses avis, et tout malade doit être signalé. Donc la désinfection donc, des effets, la stricte réglementation, etc., les grandes qui se justifient par la théorie des miasmes, à laquelle adhère la médecine arabe, hein, parce que ça, on retrouve ça dans l'Antiquité. Et d'ailleurs, Jabarti dit, on dit en effet que les miasmes proviennent des profondeurs du sol qui, lors de l'hiver, se refroidissent par suite du courant du Nil, des infiltrations de la pluie et d'humidité. C'est de là que proviennent ces vapeurs fétides qui infectent l'air et provoquent les maladies contagieuses et la peste. Donc peu à peu, on va avoir monté en puissance des mesures sanitaires, mise en quarantaine de toute personne soupçonnée de la peste. Le logement doit être fermé, les personnes en contact sont mises en quarantaine. Et pour les faire appliquer, on fait appel aux chefs des communautés religieuses, aux chefs des quartiers, aux gardes des secteurs, aux médecins, les laveurs de morts aussi sollicités, hommes et femmes, qui doivent avertir immédiatement les autorités dans toute cas de peste. Il y a, le 2 novembre, une commission qui est chargée d'appliquer, de juger les délits, car c'est tout simplement la peine de mort. Peine de mort s'il y a évasion des individus des lazarets ou des maisons mises en réserve pour la quarantaine, s'il y a eu des fausses déclarations des capitaines, si on a caché des objets susceptibles, etc. Il y a des délits punis d'amende en cas de fausse déclaration, et puis aussi des punitions correctionnelles. Donc il y a une grande sévérité dans les mesures et qui montre manifestement les difficultés qu'a le pouvoir quand même d'invasion, d'occupation des Français à observer ces mesures, et les responsables français usent de la terreur pour tenter d'enrayer ce mal qui répand la terreur. C'est une évidence. Alors, c'est un pays envahi. Les Français n'ont pas conscience qu'ils sont des envahisseurs. C'est très curieux. Ils n'ont pas l'impression d'être des occupants. Ils apportent la liberté, etc. Bah oui, mais bon, c'est pas comme ça que les populations locales les perçoivent. Et donc, ils sont arrivés. Ils ont fait une des premières choses. Ils ont augmenté les impôts. On n'est pas français pour rien, donc tout de suite les impôts. On a multiplié les réglementations, parce que Napoléon, c'est quand même l'homme de toutes les réglementations possibles et imaginables. Et en plus, il y a ces réglementations sanitaires qui vont à l'encontre de leurs convictions religieuses. Les Égyptiens haïssent les occupants, ils les qualifient de maudits, hypocrites, oppresseurs, matérialistes, mécréants, gang de Satan, hyènes. Et la religion joue un rôle déterminant dans le comportement des musulmans par rapport à l'épidémie de peste. La peste, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Dieu est à l'origine de celle-ci, c'est un châtiment de Dieu contre les hommes. Et le vrai musulman doit rester chez lui avec résignation et attendre la mort, c'est-à-dire le martyr. Donc, il est évident qu'il n'est pas question de contagion, etc. Les causes de la peste dans leur monde, et ça s'appuie sur les hadiths, c'est important, parce qu'on le trouve donc, dans les Corans, parce qu'en fin de compte, le Coran, c'est écrit pas tout de suite, etc., et dans les hadiths, dans les traditions, et donc qui viennent des traditions pré-islamiques du Moyen-Orient. Donc, c'est l'origine de la peste, c'est la corruption de l'air par des agents terrestres ou aériens, c'est les eaux stagnantes, les cadavres putréfiés, on l'a vu, mais aussi les étoiles filantes, ce qu'on croyait en Europe au Moyen-Âge et tout, les météorites, le vent chaud et humide, et ça, franchement, l'arrêt dit la même chose. Enfin, pas les météorites et pas les étoiles filantes, mais ils pensent que le Khamsin joue un rôle, les vents chauds, l'humidité orageuse, sans pluie, donc c'est la théorie des miasmes, il n'y a rien à faire. Donc, quand on fait quarantaine et puis qu'on récupère les pestiférés, eh bien, il n'y a plus d'assistance aux malades. Il n'y a plus de... Or, ça fait partie de l'obligation de tout musulman. Il faut visiter les malades, il faut apporter des soins. Donc, la peste, c'est le mal absolu. C'est un mal absolu que seule la pratique religieuse peut sauver. Donc, elle est confortée donc, par le Coran, je vous dis la tradition. Et donc, les Français appelleront le fatalisme musulman. Et quand on lit l'arrêt, il est stupéfait de l'attitude qu'ils ont, de pas essayer de se guérir. Donc, comme la quarantaine coupe le malade de sa famille, comme les cortèges funèbres vont être interdits, donc là, on a, et d'ailleurs, ça participera vraisemblablement, ça a joué dans la révolte du Caire. Donc, c'est vraiment à l'encontre, ça va à l'encontre du comportement social, familial, religieux, fortement enraciné. Donc, il y a une incompréhension mutuelle des mentalités entre les Français et les musulmans. Alors, ça va finalement par s'apaiser, parce que quand en 1801, eh bien, les Anglais vont être aux portes, les Français vont être obligés de lever le pied au niveau des contraintes. Et donc là, Jabarty dit toujours « Dieu soulagea les gens, on vit même la quarantaine s'adoucir pour les décès et les déclarations de maladie ayant entraîné la mort ». Déjeunette a une très jolie formule pour expliquer ce qui se passe. Il dit qu'on a été obligé de reconnaître les transactions avec les principes populaires. Transactions, c'est-à-dire qu'on a tout simplement... la peste, en principe, on verra, a bondi évidemment dans la population locale. Donc on a désinfection, décontamination, assainissement des lieux, qui sont en complément. Alors, l'avantage qui est apparu, c'est l'apparition du chlore, qui est la première fois employée dans la marine, obligatoire dans la marine, et donc, on appelle ça l'acide muriatique suroxygéné, mais bon, c'est tout simplement le chlore, et qui va être employé pour, évidemment, la désinfection. Blanc va demander à des genettes si on ne peut pas brûler les habits des gens qui sont pécés. Depuis le Moyen Âge, on sait que il y a des métiers qui sont plus touchés par la peste. C'est tous ceux qui sont dans le textile et tous ceux qui manient le cuir. Et ça, on le sait. Hein. Donc là, il dit, il faut brûler tous les effets des pestiférés parce qu'ils pensent que le chlore, ça va pas suffire et que laver ou mettre à l'air, ça suffit pas. Et ça se passe devant, la question se passe devant Bonaparte. Alors évidemment, les commissaires des guerres commencent à couiner parce que ça veut dire qu'on va brûler des vêtements qui coûtent cher, qu'on va dédommager les hommes à qui on aura brûlé les budgets. Enfin, même s'ils sont morts, ça sera plus possible. Enfin bon, il y aura des dédommagements pour ne serait-ce que pour le corps à laquelle appartenait cet homme. Et donc Bonaparte superbe dira « Je suis venu ici fixer l'attention et reporter les intérêts de l'Europe sur le centre de l'ancien monde et non pour entasser des richesses. » Donc, quoi qu'en pensent les commissaires, on brûlera. Finalement, on ne brûlera pas tout. Ça ne sera pas vraiment appliqué. Desgenettes dit « La cupidité, encore plus que la négligence, est souvent opposée à l'entière exécution de cette mesure. » Et donc, lui-même va pratiquer lui-même, brûler lui-même des choses devant Saint-Jean d'Acre parce que, pour ça, elle est contaminée. Alors, en plus de la décontamination par le feu, il y a des mesures de désinfection, on emploie le chlore, la chaux, le vinaigre qui sont employés, les fumigations, le lavage. Alors, il y a quelque chose quand même de très amusant, c'est la deuxième brigade d'infanterie légère qui a été touchée à Damiettes. Et Bonaparte a envoyé un ordre en disant « Faites-la mettre à nu comme la main ». Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir toute la deuxième demi-brigade qui va partir tabou battant et rentrer dans la mer avec les canons, avec les cordages. On a la description qui est très amusante. Et pendant 2 heures, ils vont se laver, shampouiner dans l'eau, etc. Sortir ensuite, même les papiers sont mis dans l'eau. Parce que les papiers aussi, il y a des grandes pincettes et les papiers sont passés au vinaigre, etc. Donc la désinfection touche aussi les correspondances contre la peste. On assainit évidemment les lieux également, donc à la chaux, etc. Ils vont obliger les Égyptiens à balayer devant leurs rues, à jeter les détritus dans des endroits bien précis, à les faire brûler. Enfin, il y a un nettoyage public qui est imposé à Alexandrie, au Caire, etc. Alors, l'armée et la peste. L'armée et la peste, ce n'est pas une grosse affaire, en fin de compte. Pendant l'hiver 1798-99, la peste va tuer officiellement dans l'armée 450 hommes. Ce qui compte, c'est pendant la campagne de Syrie, là, il y a 13 000 hommes qui sont déployés, il va en avoir 1 000 à peu près qui vont être tués par la peste, à peu près autant que tués au combat. Alors, pour des moyens, je dirais, médicaux limités à cette époque, le recours, évidemment, aux empiriques n'est pas très utile, ce qui fait qu'on a joué sur les facteurs psychologiques. C'est ça qui est important. Le premier, c'est quelle attitude adopter vis-à-vis de la peste. L'arrêt, lui, aurait préféré qu'on donne le diagnostic de la peste pour que ça soit officiellement reconnu et que les soldats, justement, prennent conscience, parce que toutes les fois qu'un homme meurt, les soldats récupèrent ses affaires et donc ça peut comme ça se propager. Donc là, ils pensent que si on avait dit, ils auraient mieux accepté et mieux pratiqué les mesures sanitaires. Il dit que l'on ne croit pas pourtant que le nom de peste ait beaucoup effrayé nos soldats, ils étaient trop accoutumés à recevoir sans émotion toutes sortes d'impressions. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a des hommes qui, se rendant compte qu'ils avaient la peste, se sont suicidés. Pas aussi simple. Desgenettes, lui, devant Jaffa, quand vraiment la peste va commencer à flamber, va être contre d'en parler. Il dit, sachant combien le prestige des dénominations influe souvent vicieusement sur les têtes humaines, je me refusais à jamais prononcer le mot de peste. Alors, franchement, ils vont employer, alors Bonaparte va le suivre là-dessus, ils vont employer des tas de mots tout à fait euphémiques. Alors c'est les fièvres pestilentielles, ça va être fièvre maligne, fièvre à bubon, maladie régnante, maladie des glandes. Enfin, on prend un peu les soldats pour des couillons. Quand on lit par exemple le journal de Bricard, qui est un simple canonnier, qui va avoir la peste, il le dit, j'ai la peste. Voilà. Donc il ne s'est pas pour autant suicidé, etc. Alors, deuxième fait hyper connu pour... Bon, là, c'est pour vous, juste vous montrer le trajet qui va être emprunté dans la campagne de Syrie. Le point nodal, c'est Jaffa, hein, à l'aller au retour. Jaffa, où on a, vous savez que Bonaparte, ayant trouvé, soi-disant, un certain nombre d'hommes dans la garnison qui étaient dans celle d'El Arish, va ordonner de tuer de sang-froid 2500 à 3000 hommes. Ça aussi, tâche sombre. Hein, alors que Beauharnais et Croisier, donc ces deux aides de camp, avaient donné leur parole de leur laisser la vie sauve. Donc ça, ça va être quelque chose d'horrible. Alors ça, c'est bon. Flûte, on a... Ben voilà. Alors, le truc, c'est que pour rassurer les troupes et nier le caractère contagieux de la maladie, donc Bonaparte va visiter donc les pestiférés de Jaffa le 11 mars. Il va pendant une heure et demie se promener dans cette structure. Alors là, vous avez ce tableau de Gros magnifique, hein, pratiquement thaumaturge. Enfin bon, on se connaît bien la gestuelle bien précise. La réalité, c'est pas ça. Il s'est trouvé à un moment, c'est ce que Desjettes raconte, dans une chambre étroite et très encombrée. Il aida à soulever le corps hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par l'ouverture d'un bubon abcédé. Mais de toute façon, les puces sont parties puisqu'il était mort, hein, par définition. Alors, il n'a pas couru grand risque, mais enfin bon, on ne sait pas si. Oui, il le sait. Ah ben non, mais non, c'est ça le problème. Donc non, non. Mais ce tableau-là, c'est un tableau fait en 1804, qui était au salon du 18 septembre 1804, et c'est pour montrer le courage, l'abnégation, ses soldats, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer de la part de Napoléon. Mais c'est surtout pour contrebalancer la propagande britannique, et notamment les accusations portées qui est la réalité, qu'il ait fait tuer la garnison de Jaffa. Hein, donc c'est le contrepoids de Jaffa, hein, du Jaffa avec des tas de gens qui ont été assassinés de façon horrible, et les soldats en avaient par-dessus la tête, ils ont commencé avec au fusil, et puis ensuite, comme il ne faut pas user trop les balles, ils ont fini à la baïonnette. Enfin, ça a été une horreur. Hein. Et tuer de sang-froid des hommes à la baïonnette, c'est pas simple. Et puis, donc, c'est le deuxième volet, ça, pour calmer tout le monde. Le troisième, c'est ce qu'a fait Desgenettes, un geste très, très discuté, qui est l'auto-inoculation. Alors, Desgenettes a dit que c'était inutile comme geste, et bon, ils étaient plusieurs médecins, je crois, à se moquer de Desgenettes. Mais voilà ce qu'explique Desgenettes. Ce fut pour rassurer les imaginations et le courage ébranlé de l'armée qu'au milieu de l'hôpital, je trempais ma lancette dans le pus d'un bubon appartenant à un convalescent de la maladie au premier degré et que je me fis une légère piqûre dans l'aine et au voisinage de l'aisselle sans prendre d'autre précaution que celle de me laver avec l'eau et le savon qui me furent offerts. J'eus pendant plus de 3 semaines 2 petits points d'inflammation correspondant aux 2 piqûres et en plus, il a été se promener, se baigner dans la mer pour bien montrer aux soldats qu'il était toujours vivant après s'être inoculé, etc. Alors, il est conscient que ça n'a pas de portée scientifique, mais que c'est uniquement pour le réconfort moral des hommes. Alors, les facteurs, on peut y rire que ces facteurs psychologiques, mais pour eux, c'est prophylactique aussi, ces facteurs. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils considèrent à cette époque, il faut le replacer dans son époque, on considère que tout le monde pense que si, à cette époque, on croit que si la personne a peur d'avoir la peste, il va l'attraper. Donc, et d'ailleurs, Desgenettes dit « J'ai remarqué encore que l'infection morale aggravait cette maladie et en facilitait aussi le développement chez les personnes qui en possédaient le germe et la faisaient contracter par les causes les plus sincères. » Donc c'est vraiment une croyance communément ancrée que on a, les gens qui craignent la peste l'attrapent et en plus, il y a eu il y a eu le cas de l'adjudant général de Brézieux qui avait reçu donc le commandement de la province de Jaffa, qui s'était enfermé, qui communiquait par une petite guérite, une petite ouverture, et qui est mort en 48 heures de la peste, parce que manifestement les guérites n'ont pas empêché la survenue des petites bestioles. Alors, point de vue de Napoléon à Sainte-Hélène, là-dessus, il dit c'est parce que on croyait vraiment que le facteur psychologique comptait, c'est pour ça qu'il l'a fait. Donc son siège principal est dans l'imagination. En Égypte, tous ceux dont l'imagination était frappée périssaient. La défense la plus sûre, le remède le plus efficace, c'était le courage moral. Lui, Napoléon, avait impunément touché, dépestiféré à Jaffa et sauvé beaucoup de monde en trompant les soldats pendant un ou deux mois sur la nature du mal. Ce n'était pas la peste, leur avait-on dit, mais une fièvre à bubon. Voilà, c'est ce qu'il dit au mémorial de Sainte-Hélène. Alors, se pose tout de suite le sort des malades intransportables, et notamment quand il va y avoir, donc il y a le siège, donc après cette visite à Jaffa, passage à Jaffa, il va y avoir le siège de Saint-Jean d'Acre, vous savez que bon, ça a totalement échoué, il va y avoir 64 jours de siège, avec plusieurs échecs d'attaque, ils vont être obligés donc de faire une retraite. Kléber a sûrement le mieux résumé la situation, a dit « Nous avons attaqué à la Turque une place défendue à l'européenne. » Vous savez qu'il y avait Stigne Spies, il y avait Philippot, un grand ennemi de Bonaparte. Bon. Et donc là, le moral est vraiment atteint. Donc le problème, c'est que faire des malades intransportables. Alors, il y a cette affaire-là du monastère de Stella Maris. Donc on est à Haïfa, proche de Saint-Jean d'Acre. Et avant de partir, deux jours avant de la retraite, Bonaparte a fait venir des jeunettes et lui a dit « À votre place, je terminerai à la fois les souffrances de nos pestiférés et je ferai cesser les dangers dont ils nous menacent en leur donnant de l'opium. » Connaissez-la. Célébrissime réponse de Desgenettes. Moi, mon devoir à moi, c'est de conserver et de refuser. Ils vont laisser quelques mourants dans le monastère des Carmes et ceux-là vont être torturés, dit-on, par les Turcs. Ça va peser un poids très très lourd dans la décision d'euthanasie plus tard. Alors, ce petit truc-là, c'est les malades, donc les Carmes, évidemment, avaient été expulsés, et les corps des malades, etc., sont restés sans sépulture. Et c'est qu'en 1804 que les Carmes, reprenant possession donc des bâtiments, vont rassembler les ossements qui étaient sur le sol. Et malheureusement, le petit truc qu'ils avaient fait va s'effondrer, donc les animaux vont venir manger les os. Et c'est qu'à la fin des années 1820, qu'il y a une intervention donc qui intervient à la reconstruction donc du monastère sous la pression de Charles X puis de Louis-Philippe et que les ossements vont être donc ensevelis dans cette pyramide à l'entrée de l'édifice. Donc c'est un petit souvenir tout à fait intéressant de cette époque. Donc au retour, sur le chemin du retour, quand il se retrouve donc à Jaffa, c'est là que de nouveau va se poser le problème des pestiférés non transportables. Et c'est là que, manifestement, Desgenettes dit 20 à 30 pestiférés vont recevoir une dose mortelle de laudanum. Il dit que quelques-uns la rejetèrent par le vomissement, furent soulagés et guérir, racontèrent ce qui s'était passé. Sidney Smith a dû récupérer 7 hommes qui n'étaient pas morts de cette chose. Alors, Napoléon va se justifier, parce qu'évidemment, ça va être amplifié du côté anglais. On va dire qu'il y a plus de 580, c'était un dénommé Wilson qui va raconter ça. Il va se justifier, Napoléon, en disant « Il faut se rappeler qu'il s'agissait de ne pas laisser nos prisonniers entre les mains des Turcs, lesquels, dans les 12 heures qui leur restaient à vivre, leur auraient coupé les parties et coulé du plomb fondu, etc. » Or, si c'était ma femme ou mon fils, j'en aurais agi de même. S'il y avait eu l'impossibilité de les transporter, parce que le premier principe de la charité est de faire ce que nous voudrions qu'on nous fît, il faut consulter là-dessus non des civils mais des militaires, demander au 50e, au 53e, c'est le régiment anglais qui était en garnison à Sainte-Hélène, il n'y aurait qu'une voie. Donc c'est ce problème-là qui va peser lourdement dans la légende noire de Napoléon, dont je ne rentre pas après dans d'autres choses. Je vais conclure là. Donc, la découverte du bacille, c'est pratiquement un siècle après. Il faut constater qu'au bout de 3 ans d'efforts, eh bien, l'essai d'implanter par la contrainte une organisation sanitaire en Égypte est un échec complet. D'ailleurs, après le départ des Français, les Anglais vont aussi, et ils auront davantage de pertes d'ailleurs, vont aussi échouer. Et les Français ont manqué de temps, mais c'est une question de changement de mentalité. Et dans le domaine sanitaire, ça ne pouvait que se faire, ça ne pouvait pas se faire dans le cadre d'une dimension, d'une domination militaire. Il fallait aussi que les autorités locales l'acceptent et puis finalement puissent faire modifier les populations concernées. La peste disparaît totalement en Égypte en 1844. Le bilan de la campagne d'Égypte a de quoi surprendre. Parce que finalement, c'est quand même extraordinaire. Mais vous voyez les chiffres. Mort par fait de guerre, 4758. Mort par fait de maladie, 4157. Donc finalement, moi, je n'ai pas trouvé. J'ai demandé même à Jacques Frémont, qui est quand même spécialiste des trucs coloniales. Je n'ai pas trouvé de guerre coloniale tout le 19e siècle. Il n'y a pas une seule guerre où on a cette proportion, c'est-à-dire moins de tués par fait de guerre que par maladie. Il n'y en a pas. La Crimée, c'est 100 000 morts, 75 000 par maladie et 25 000 par arme à feu. Non, mais ça n'existe pas. Là, vous avez... C'est l'inverse. Donc, comme c'est l'inverse, ils ne comprennent pas. Bon, enfin bon. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, cette faible incidence de la maladie est tout à fait surprenante et montre quand même le succès, finalement, de ces hommes, de ces chirurgiens. Ça a été au prix de 40 médecins et chirurgiens et 24 pharmaciens morts. Alors, je termine. Cette campagne d'Égypte était considérée comme étant un peu difficile à cause de la peste, l'enfer. Les médecins survivants, beaucoup d'entre eux, vont aller en enfer, parce qu'ils vont aller faire la campagne de Saint-Domingue. Et là, ils vont savoir ce que c'est que l'enfer, avec la maladie, et puis toutes les horreurs, les atrocités qui s'est passées.